Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi.
Nous allons lire les lectures qui vont servir à la prédication.
Je vais commencer la lecture dans les Actes, le chapitre 28, les versets 1 à 14. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ses gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome.
La deuxième lecture est dans Marc 16, 14 à 20. Enfin, Jésus se montre aux 11 apôtres pendant qu'ils sont en train de manger. Il leur fait des reproches en disant « Vous ne croyez pas et vous ne voulez pas comprendre. Vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant. » Ensuite, Jésus leur dit « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Annoncez-la à tous. Celui qui croira et baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains et ils boiront du poison sans que cela ne leur fasse aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. » Après que le Seigneur Jésus leur ait dit cela, il est enlevé au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu. Les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies.
Eh bien, permettez-moi, chers amis, d'abord de vous saluer très fraternellement ce matin. Certains visages me sont connus, d'autres pas ou pas encore. Et je repense avec beaucoup d'émotion à mon temps de stage vécu ici à Mérin Village, il y a juste 30 ans, durant l'année scolaire 1982-83, sous la responsabilité d'Armand Heiniger. Ça nous rajeunit pas tout à fait. C'était, sauf erreur, une première à Genève qu'un ministre de l'Église protestante puisse effectuer un stage dans une autre communauté, une autre église. Il est vrai que la collaboration, la communion entre la paroisse et l'Église évangélique était déjà très profonde et bien entendu prophétique. Alors, quand mon collègue Maurice Salib m'a dit il y a quelques semaines qu'il cherchait encore un prédicateur pour ce dimanche à Mérin, et tout particulièrement au village, c'est tout naturellement et porté par ces bons souvenirs parmi vous que j'ai accepté avec joie l'invitation. Seigneur, viens déposer au plus profond de nos existences, malgré et au-delà de nos paroles humaines, ta parole de vie pour chacune et chacun d'entre nous. Frères et sœurs, comment est-il aujourd'hui votre chemin de vie? Sombre ou ensoleillé? Facile, joyeux, serein ou difficile? Vécu dans la souffrance, les regrets, la nostalgie ou peut-être des questions sans réponse? Sur quel chemin marchez-vous? Une route large et droite, une pente raide, un sentier caillouteux, un chemin ombragé ou une piste désertique? Avez-vous le sentiment de tourner en rond ou au contraire d'avancer avec assurance sur un chemin tout tracé? L'été, les vacances, c'est souvent un temps favorable pour laisser remonter des grandes questions existentielles. Une occasion de regarder en arrière et aussi en avant. Les personnages que nous découvrons dans la Bible ont souvent des chemins de vie incroyables, inattendus. C'est bien sûr le cas de celui de l'apôtre Paul, dont vous avez choisi cet été de vous remémorer ses voyages dans le livre des Actes, des Actes des apôtres que certains appellent aussi les Actes du Saint-Esprit. Chers amis, on ne sort pas indemne, ou on ne devrait pas sortir indemne, de la lecture de ce livre. Le témoignage de ces débuts du christianisme nous étonne, nous interpelle, nous questionne, nous bouleverse peut-être. L'œuvre de Luc, qui écrit les Actes des apôtres, c'est une œuvre colossale. Elle couvre presque le quart du Nouveau Testament. Luc, c'est le plus grand conteur de la première communauté chrétienne. Et le seul à présenter l'histoire de la première Église collée, accolée à la suite des paroles de Jésus, de l'histoire de la vie de Jésus. Et ce choix n'est pas innocent. Cela signifie que l'histoire de l'Église, notre histoire, n'est rien d'autre que l'action de Jésus poursuivie, continuée. Les apôtres sont sans cesse en route pour annoncer l'Évangile, tout comme le Christ était toujours en chemin. Certains miracles dans les Actes sont presque calqués sur des miracles de l'Évangile. Au fil des Actes, nous voyons se multiplier les rappels des échos de la vie de Jésus. Dans ce livre des Actes, un homme va prendre une place exceptionnelle. Le choix de cet homme est assez inattendu. Il s'agit, vous le savez, d'un ancien pharisien de Tarse, un fanatique, zélé de la loi et persécuteur des disciples de Jésus. Le récit nous montre comment sa vie fut retournée, bouleversée, sur le chemin de Damas. Et si l'apôtre Pierre avait dominé le récit jusque-là, Paul devient tout à coup le véritable héros de ce livre. Luc devait probablement avoir une grande admiration pour Paul, et il présente son activité avec beaucoup de soin. Il décrit la fondation par Paul de nombreuses églises. Ces deux derniers dimanches, vous l'avez suivi dans ses voyages à Chypre, puis à Iconium et à Lystre. Je vous propose ce matin un saut dans le temps pour rejoindre le chapitre 28. Luc nous décrit la situation de Paul arrêté à Jérusalem, traîné de prison en prison, de comparution en comparution, jusqu'à son transfert à Rome, où il va demeurer en résidence surveillée dans l'attente d'un jugement. Nous le retrouvons ce matin précisément pendant son transfert vers Rome. Quatrième voyage et drôle de chemin pour ce prisonnier. Voyage en bateau, naturellement, avec tous les risques que cela comporte. Il faut faire avec la météo, et elle n'est pas fameuse. On essaye de s'abriter vers l'île de Chypre, puis celle de Crète. Contrarié par des vents de plus en plus violents, le bateau part à la dérive. Plus aucun contrôle de la route, du chemin. On ne maîtrise rien. Paul essaye de réconforter ses compagnons, et ses geôliers, il sait qu'il arrivera sain et sauf à Rome, mais pas encore. Par quel chemin? C'est finalement sur l'île de Malte, vous l'avez entendu, qu'ils échouent. Nous voici arrivés à ce dernier chapitre des Actes. Luc a décrit très précisément tout ce voyage, dont vous parlera encore la pasteur Gabriel, pilier des corvées, à fin août. Mais au fond, à quoi cela nous sert-il de connaître tous ces détails qui remplissent des pages et des pages de notre Bible? L'important, n'est-il pas que Paul arrive à Rome et qu'ainsi la promesse de l'annonce de l'Évangile à toute la terre se réalise enfin? L'important, n'est-il pas le but? Eh bien non, pas seulement. L'important, c'est aussi de connaître et de reconnaître que le chemin de Paul, que notre chemin, n'est pas du tout un chemin rectiligne et évident, même vécu sous le regard de Dieu. Mais j'enfonce des portes ouvertes, vous le savez très bien, vous l'expérimentez tous les jours. Quel que soit le chemin, même si nous l'associons souvent à une tempête, voire à un naufrage, il nous est rappelé que ce qui est déterminant, c'est ce que nous faisons dans et c'est ce que nous faisons dans et de tous ces chemins périlleux, ces plans contrariés, ces souffrances ou ces violences subies, ces erreurs commises et souvent accumulées. Alors les détails du voyage de Paul commencent à m'intéresser, parce que je découvre qu'à chaque événement vécu par ses compagnons de route comme une contrariété, un chemin non choisi, imposé, il en fait, lui, la lecture d'un événement possible du plan de Dieu. Et la cohérence de tout son voyage, de toute sa vie, il ne la découvrira peut-être qu'à la fin, comme nous d'ailleurs. C'est contre son gré que Paul se trouve maintenant littéralement jeté sur l'île de Malte. Échoué, c'est un échec. Ça n'était pas le plan prévu, ça n'était pas la route à suivre. Paul, solidaire de ses compagnons qui ont froid, ramasse du bois, malheureusement dans les branches, qu'il s'apprête à jeter sur le feu, un serpent, peut-être engourdi, se réveille, sous l'effet de la chaleur, et reste suspendu à sa main. Ses compagnons s'attendent à le voir tomber, raide mort. Il a échappé à la tempête, il n'échappera pas à la justice divine. Est-ce vraiment important de connaître tous ces détails ? Ont-ils affaire avec l'annonce de l'Évangile? Luc n'en fait-il pas un peu trop? Mais le lecteur attentif, que vous êtes aussi, a fait tout de suite le lien. Voyons cette histoire de serpent, ça me rappelle quelque chose. Quand Jésus apparaît à ses disciples, ressuscité, vivant, il les envoie en mission. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. C'est bien entendu pas par hasard que Luc nous raconte ce petit épisode de Paul avec son serpent. Il oblige le lecteur à s'interroger. C'était donc vrai ce que Jésus a annoncé? Et Luc continue avec une autre anecdote. Il raconte comment Paul rencontre le personnage principal de l'île, Publius. On apprend qu'il a un père malade. Paul pose ses mains sur le père de Publius, le guérit. La nouvelle se répand et tous les malades de l'île accourent et sont aussi guéris. À nouveau, le lecteur attentif relie cet épisode à ce qu'il connaît du discours de Jésus. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Luc veut nous montrer que ceux qui ont été des suiveurs du Christ jusque-là sont devenus ses collaborateurs, sont devenus des acteurs de l'annonce du royaume. On ne nous dit pas si ces habitants de Malte ont cru à l'Évangile, s'ils ont fondé une église à laquelle Paul aurait pu écrire par la suite une épître. Ils ne sont plus jamais mentionnés. Il nous a juste dit qu'ils montrèrent beaucoup de respect pour Paul et ses compagnons et qu'ils fournirent tout le nécessaire pour poursuivre le voyage. Cet épisode était-il vraiment nécessaire? Ce chemin détourné, contrarié, a-t-il eu un impact? Cette présence imprévue de Paul fut-elle fructueuse? On n'en sait rien. Enfin, pas tout à fait. Aujourd'hui, c'est magnifique, on a Internet. J'ai eu la curiosité, il y a quelque temps, de consulter le site de l'Office du tourisme de Malte. Ce dernier faisait référence à la baie de Saint-Paul. On trouvait une photo de cette baie, magnifique, et au-dessous, le texte en français du livre des Actes, chapitres 27 et 28. Mais le plus stupéfiant, j'ai appris qu'il y a aujourd'hui sur cette île près de 400 églises, la plus forte proportion au kilomètre carré au monde. Vous ferez les œuvres que je fais, disait Jésus en annonçant la venue de l'Esprit-Saint, et même vous en ferez de plus grandes. Probablement que cette parole est tombée dans le scepticisme bien compréhensible des disciples incrédules. Est-il possible de marcher dans les traces de Jésus et de faire même des choses plus grandes que ce qu'il a accompli? Oui, répond Luc. Avec ce chapitre 28, Luc va terminer son récit sur l'épopée de seulement 30 années de christianisme. C'est une fabuleuse expansion qui a conduit la parole de Jérusalem à Rome. Mais Luc, bien informé sur la géographie, ne peut pas ignorer que Rome n'est pas encore l'extrémité de la terre. Il a donc voulu terminer son histoire sur un programme en suspens, pas encore achevé. Luc n'a pas écrit une histoire fermée sur elle-même. Par exemple, le livre des Actes ne se termine pas par la mort de Paul et l'exécution de ce voyageur, de cet apôtre, comme on pourrait s'y attendre. Or, Luc devait en être informé au moment où il rédige son livre. Ça n'est pas la fin d'un témoin, même s'il s'agit de Paul, qui est importante, mais l'aventure de cette parole est la mission confiée aux chrétiens. Et cette mission continue. Son livre s'adresse désormais à tous les lecteurs qui vont s'inscrire entre Rome et les extrémités de la terre, c'est-à-dire nous. Ainsi, on n'achève pas la lecture des Actes en se déclarant plus instruit. On l'achève en se découvrant mobilisé, comme Pierre, habité de courage comme Étienne, touché comme Lydie, investi de mission comme Paul, sans parler de la foi de Philippe, de Barnabas, d'Aquilas, de Priscille, de Sylvain, de tous les autres. Cette nuée de témoins est le signe que Jésus est vivant, qu'il agit en habitant dans le cœur des humains, en retournant leur vie, en faisant d'eux les instruments de son projet et en les rassemblant en communauté vivante. Oui, le livre des Actes n'est pas un livre qui est terminé. Luc, aujourd'hui, nous tend sa plume. Nous sommes appelés à écrire notre page, ou si vous voulez, le chapitre 29. Comme le disait un beau slogan il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, « La Bible, un livre à vivre ». On pourrait dire « Le livre des Actes, un livre à vivre et à écrire encore et toujours ». Notre page des Actes, nous allons l'écrire avec nos enthousiasmes, nos victoires, nos réalisations, nos créations, mais peut-être surtout avec nos chemins non choisis, nos plans contrariés, nos tempêtes, même nos naufrages personnels, familiaux, professionnels, nos souffrances et nos solitudes. Apprenons à la suite de Paul, à accueillir les événements, dans la même confiance qu'il habitait, confiance dans la parole donnée par le Christ et dans les signes qui l'accompagnent. Vous le savez, Dieu écrit toujours droit avec des lignes courbes. N'est-ce pas là l'expérience de chacune de nos vies ? Amen.